Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous présentons les nouvelles de ce midi. Voici les principaux titres. Accord historique à Doha, un pas décisif sur la paix en RDC. Hier, pour la première fois, une déclaration conjointe a été publiée où le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de conclure une trêve. Le respect de ces engagements est crucial pour un dialogue constructif visant à instaurer une paix durable en RDC et dans la région. Les défis de la circulation à Kinshasa. Chaque jour, les habitants doivent affronter des embouteillages interminables, les routes en mauvais état et les travaux de réhabilitation compliquent encore plus la mobilité urbaine, transformant les déplacements quotidiens en véritable épreuve. Plongez dans notre reportage exclusif pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir John Tchebweru, membre du collectif Voix du Kivu pour la Patrie, dans un entretien avec Ronelyne Timbonera. Il nous éclaire sur la situation critique des villes de Goma et Bukavu qui vivent leur troisième mois sous l'occupation des rebelles du M23. John Tchebweru partage également le insight sur le rapprochement stratégique entre le gouvernement congolais et américain autour de l'accord minier. Ne manquez pas cet échange. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Nous ouvrons ce journal par une avancée significative dans les négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23. En effet, ils ont publié pour la première fois, mercredi 23 avril, une déclaration conjointe dans laquelle ils expriment leur volonté, je cite, d'œuvrer à la conclusion d'une trêve. Les deux parties se sont engagées à favoriser l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Elles conviennent que le respect de ces engagement constitue une étape clé vers un dialogue constructif visant à un retour durable à la paix en RDC et dans la région. Cette avancée majeure fait suite à 3 semaines de discussions à Doha sous la médiation du Qatar, une initiative saluée par plusieurs acteurs régionaux et internationaux dont le Qatar, le Rwanda et la Belgique. Le condensé de ces réactions avec Martial Papimukeba.
Sur son compte X, Majed Al-Anasri, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, déclare, je cite, « Suite à la réunion des chefs d'État tenue le 18 mars 2025 entre la RDC, le Rwanda et le Qatar, nous sommes heureux de constater les efforts de collaboration et cette déclaration conjointe entre la RDC et le M23 fin de citation. L'État du Qatar encourage les deux parties à poursuivre ces dialogues dans un esprit constructif et à œuvrer pour parvenir à un accord conforme aux aspirations du peuple congolais à la paix et au développement, précise-t-il. Du côté du Rwanda, Olivier Ndahungire, ministre des Affaires étrangères, déclare que cette déclaration conjointe entre les gouvernements de la RDC et l'AFC M23 constitue un pas important, voire décisif, vers une paix durable à l'est de la RDC, pourvu qu'elle soit mise en application en toute bonne foi. Il ajoute que cet élan de paix dans la région inclut d'autres initiatives en cours dans lesquelles le Rwanda est pleinement engagé. En fait, du côté de la Belgique, Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, parle d'une étape cruciale pour mettre fin aux violences. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, dans la province du Sud Kivu, les exactions perpétrées par des hommes armés se multiplient contre la population civile. Un agent des services de renseignement de l'ANR a été grièvement blessé à son domicile à Bukavu dans la nuit de mercredi. Ce jeudi matin, un corps sans vie a été découvert baignant dans le sang au quartier Kafou sur la route nationale numéro 2. Toujours mercredi, un agent logistique de la CENI antenne décalée a été arrêté et molesté après le saccage du matériel électorale. Les cas d'exaction sont nombreux dans cette province sous l'occupation des rebelles de l'AFC M23. Plus de détails avec Stanislas Djoumi.
Hormis les actes de commission de meurtre, des vols et des viols commis par les hommes armés dans différentes entités de la province du Sud Kivu, les défenseurs de droits humains soulèvent également les opérations de recrutement forcé de jeunes aussi du mouvement rebelle. Le site minier de Luhihi dans le territoire de Calais était la cible de telles opérations hier. Des jeunes creuseurs artisanaux ont été recrutés moyennant une motivation matérielle de $10 américains. Les résistants étaient priés de quitter ces puits miniers sans condition. La ville de Kavumu, située non loin du puits d'or de l'Uhihi, enregistrait régulièrement des incursions d'hommes armés. À part les armes, ce groupe de bandits non autrement identifiés se servent de monteurs à souder pour faciliter l'accès dans des maisons en matériaux durables. Le quartier Sirato, Kakenge, Kabuga et beaucoup d'autres encore ont subi ces opérations macabres hier. Le couvent de prêtres, des sœurs religieuses et trois résidences d'échangeurs de monnaie ont été ciblées. Heureusement, les couvents de religieux ont été épargnés grâce aux clameurs publiques.
Comme annoncé dans les titres, Circulaire Kinshasa devient un véritable casse-tête. Les quatre districts de la ville Tchangou, Funa, Mouamba et Lukunga sont confrontés à des embouteillages monstres qui paralysent la ville et compliquent considérablement le quotidien des Kinois. Cette congestion routière entraîne frustration, retard et baisse de productivité pour les étudiants, élèves et travailleurs. Avec plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa est une ville saturée dont les infrastructures routières peinent à suivre la croissance démographique. Entre routes en mauvais état et tronçons en pleine réhabilitation, la mobilité urbaine est devenue un véritable calvaire. Benjamin Moudoumbi signe ce reportage.
Les principaux points chauds sont notamment Limba Foire et Super Limba, du boulevard Triomphal à Sindoué, pont Kabu pour ceux qui empruntent l'imité, Kitamo Magasin, et ceux qui prennent UPN via Nguma ou encore DGC via Centre Supérieur Militaire en passant par l'avenue des Écuries. Pompage Mimosa et l'avenue du Tourisme sont également des axes où la circulation est quasiment impossible pour les fils qu'atteindre Kitamo Magasin. Ces jours-ci, dépasser Kitamo relève d'un exploit. Pour les étudiants, ces bouchons interminables sont un obstacle majeur à la ponctualité et à la concentration pendant les cours. Témoignage.
Bon, ça nous a fait parce qu'on peut genre avoir un cours même à 7h30, on s'est arrivé même à 5h, on est aussi à la fac même à 8h.
Dès qu'il est 7h, si je sors, en tout cas, je serai à la fac ou plus tard à 11h à cause des embouteillages.
Les travailleurs ne sont pas en reste. Cet homme travaille dans les secteurs publics et l'esprit me sort à ras-le-bol.
Une fois trouvé le transport, vous arrivez au travail déjà épuisé et cela a un impact vraiment négatif sur l'efficacité même.
Les embouteillages à Kinshasa ne sont pas seulement une nuisance. Ils ralentissent le développement de la ville et affectent profondément la qualité de vie de ses habitants, affirme un expert. Face à cette situation, les Kinois réclament des solutions concrète et durable.
Le directeur provincial de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté de la province éducationnelle Kwilu 1, Monsieur Hervé Mungenta, exhorte le chef d'établissement scolaire à observer scrupuleusement les directives émanant de la hiérarchie. Il a particulièrement insisté sur la lutte contre les pratiques contraires aux valeurs, notamment la monétisation de points, de stages et de lettres. Les 13, ce sont donc les résultats que les finalistes obtiennent aux examens organisé par l'institution lors d'une réunion tenue mercredi en présence de l'inspecteur principal provincial, M. Roland Kinzini, et le directeur provincial du service de contrôle et de paix des enseignants, M. Pembe Ngonga. Apollinaire, M. Mungenta a rassemblé les responsables scolaires du secondaire de la sous-division urbaine de Bandundu. Il s'est exprimé au micro de Irène Boma Luzolo.
Nous avions réuni tous les chefs d'établissement de Bandundu-Ville. D'abord, nous leur avons transmis les instructions de la hiérarchie et nous leur avons fait savoir qu'il ne nous restait qu'un mois pour que les enfants affrontent les épreuves certificatives. Et nous avions attiré leur attention sur le sourire que nous devons faire pour que notre province donne des résultats escomptés. Nous leur avons dit que nous serons trop regardants avec des antivaleurs. Par exemple, on va monnayer les frais de stage et 13, qu'il n'était nullement question qu'un enfant puisse donner ne fût-ce qu'un seul franc. Et 13, ce sont des points, ce sont des travaux que les enfants font au niveau de leurs écoles. L'élève mérite les points selon le travail qu'il a fourni. Et il en était nullement question qu'on puisse être sur un marché de points de les 13 ou quoi. Et les enfants, ils sont très aptes. Alors il faudrait que nous puissions renforcer leur capacité d'entrer dans les antivaleurs.
Au nord Oubangui, depuis trois jours, Kotakoli, une localité située à 90 km de Badolité, chef-lieu de la province, est plongée dans une vive tension. Les militaires venus au centre d'entraînement de Kotakoli pour un recyclage ont déchaîné leur colère sur la population locale. Leur acte de vengeance fait suite à la mort tragique de deux de leurs compagnons foudroyés en plein marché mardi soir. La situation est explosive et la peur règne parmi les habitants. Plus de détails avec Askan Zibiatayoro.
Selon les sources locales, c'est sous une petite pluie que la foudre est tombée sur deux militaires se trouvant au marché de Kotakoli. Acheminés en toute urgence dans une structure hospitalière, les deux militaires n'ont pas survécu. Informé de ces décès, un groupe de militaires n'a pas bien digéré la circonstance ayant causé la perte de vie de leurs compagnons d'armes. D'après les témoignages sur place, bon nombre de militaires furieux ont d'emblée attaqué les boutiques, maisons de commerce au marché de Kotakoli, armes en main. Les uns se sont livrés purement et simplement au pillage. Les autres tiraient des coups de feu. Dans ces bousculades, un groupe de civils s'y est opposé. Un des civils a sorti son fusil calibre 12. Il a tué à bout portant un militaire, ce qui a exacerbé la tension. Il s'en est suivi des crépitements de balles toute la nuit du mardi jusqu'au petit matin du mercredi. Selon la société civile locale, le bilan provisoire fait état de 7 morts, dont 4 civils et 3 militaires. Le marché de Kotakoli et plusieurs maisons sont incendiées. La même source locale affirme que le militaire en colère accuserait la population de Kotakoli d'être auteur de ce coup de foudre qui a ciblé les leurs. Aux dernières nouvelles, un calme volatile est observé ce jeudi à Kotakoli suite au déploiement hier soir d'une unité de FRDC venue de Badolite. Cette unité a pris le contrôle de la situation qui a semé la désolation au sein de la population civile.
Le collectif de notables des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, regroupés au sein de la structure Voix du Kivu pour la patrie, salue les efforts du gouvernement congolais en collaboration avec le gouvernement américain pour une exploitation minière plus sécurisée des ressources naturelles. Dans une déclaration faite mercredi, cette structure voit cette initiative comme une solution à la récurrence de violences dans la région. John Chebweru, membre de cette structure, est convaincu qu'une fois cet accord signé, il contribuera au développement des infrastructures des bases et mettra fin à l'instabilité causée par les groupes armés. John Chebweru s'exprime au micro de René Lintim Bonera.
Tenant compte des efforts inlassables et constants du président de la République, chef de l'État, visant à garantir la sécurisation et le développement de la République démocratique du Congo, il convient de saluer deux avancées majeures récentes qui traduisent cette volonté politique. D'une part, la signature d'un partenariat stratégique minier avec les États-Unis visant à renforcer le chaîne de valeur des minéraux critiques marque une étape importante vers une exploitation responsable et souveraine des ressources naturelles du pays. Ce partenariat ouvre la voie à une coopération économique mutuellement bénéfique, fondée sur la transparence, l'innovation et la création d'emplois locaux pour nos populations.
L'Agence publique française de conception et des mises en œuvre des projets internationaux et coopération technique Expertise France célèbre ses 10 ans d'existence. Présente en RDC depuis près de 3 ans, cette structure soutient des projets financés par l'Agence française de coopération et d'autres partenaires et mène actuellement 9 initiatives d'une valeur totale de 100 millions d'euros à travers le pays. Ce projet couvre divers secteurs, notamment la santé, avec la construction des laboratoires médicaux pour contenir les épidémies. Expertise France apporte également son expertise dans la gestion des projets liés à la sécurité dans l'est du pays et à l'autonomisation des femmes. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Kinshasa, l'ambassadeur de France en RDC accompagné de la responsable d'Expertise France a annoncé que cette structure en soutien au gouvernement congolais vient de décrocher un financement de 16 millions d'euros pour promouvoir l'espoir et la culture en RDC. L'ambassadeur Rémi Maréchaux revient sur l'importance de ce projet au micro de René Lintim Bonera.
Une des particularités du portefeuille d'Expertise France en RDC, ce sont des activités très importantes à hauteur de 16 millions d'euros dans le domaine du sport et de la culture. Donc ça c'est important avec un projet dont vous verrez la réalisation qui va se traduire par la réhabilitation d'infrastructures sportives mais également culturelles pour permettre de développer la pratique sportive des femmes mais également de mettre en œuvre un projet phare qui s'appelle le centre de performance et de métier du sport. Donc l'idée c'est de permettre aux équipes nationales congolaises dans différentes disciplines, que ce soit, on pense naturellement au football, mais ça peut être le basket, ça peut être le volley, comme ça se fait dans d'autres pays, avant une compétition importante, de venir bénéficier d'une mise en condition, d'un entraînement spécifique pour être dans la meilleure condition pour remporter la compétition. Mais ça vise aussi à former tous les professionnels de ces différents métiers du sport. Parce que les métiers du sport, c'est pas simplement les sportifs professionnels, c'est aussi les accompagnateurs, c'est aussi les journalistes sportifs, c'est tous les métiers qui tournent autour du sport.
Actualité internationale.
Au Mali, l'angoisse grandit parmi les proches des personnes enlevées par l'armée malienne et les supplétifs de Wagner le 12 avril dernier dans l'ouest du pays. Une angoisse ravivée par la découverte de 13 corps en état de décomposition avancée et difficile à identifier non loin du camp militaire des Kwala dans la nuit de lundi à mardi. La scène est macabre, les 13 corps découverts en putréfaction tels que leur identification s'avère quasiment impossible, témoignent les habitants qui ont filmé les lieux. Ce même témoin précise que des hélicoptères survolaient la zone, forçant les habitants à fuir les lieux. Sur le conseil des aînés qui les accompagnaient depuis le 12 avril, une soixantaine de personnes, essentiellement de la communauté Peul, auraient été arrêtées par l'armée malienne et ses supplétifs russes.
L'invité.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir John Chebweru, membre du collectif Voix du Kivu pour la patrie, dans un entretien passionnant avec René Lintimbonera. Il nous éclaire sur la situation critique des villes de Goma et Bukavu qui vivent leur troisième mois sous l'occupation de rebelles du M23. John Chebweru partage également les insights sur le rapprochement stratégique entre le gouvernement congolais et américain autour de l'accord minier. Suivez.
Monsieur John Chebweru, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que des villes comme Goma, Bukavu se retrouvent occupées par la rébellion du M23. En tant qu'originaire de la région du Kivu, quel est l'état des lieux que vous faites de ces 3 mois d'occupation?
En effet, puisqu'il s'agit de l'entité du territoire national touchée par les agresseurs et en dehors du respect des lois de la République, l'état des lieux ne produit que la désolation, puisque c'est dans des provinces où vous sentez que la République, dans son ensemble, les tout premiers moments qu'ils ont touché les deux provinces, c'est toute la République qui retentit, qui est touchée. Donc la vie est indigérable à tous les niveaux de la vie. Ce qui fait que l'état délié de cette situation paralyse tous les restes des activités de la République, les développements. Donc, il n'y a pas la bonne marche, même du gouvernement, de toutes les institutions de la République, puisqu'il y a un mal qui gangrène une partie importante ou pas importante de la République.
Les solutions pour la paix dans la région se poursuivent et nous avons vu le président de la République s'activer en signant des accords avec le pouvoir américain sur la question des minerais dans l'Est. Vous, en tant que natif de cette région, vous pensez que cela pourrait être une solution pour qu'il y ait une stabilité dans cette région?
En effet, les gens sont en train de respirer par la prise de position du président de la République, chef de l'État, le fait d'avoir pris le courage de recevoir l'envoyé spécial du président américain, qui, à l'issue de sa visite en RDC, ça augure un espoir où tous les Congolais sont en train d'attendre un grand moment où ils vont vivre dans un pays où on ne parle que la paix, le développement économique à travers ces engagements-là.
Une autre dimension de la question, c'est par rapport à l'avancée des rebelles du M23. Ils sont à Goma, ils sont à Walungu, ils sont à Bukavu, et aujourd'hui, il y a des territoires qui sont menacés. Là, on parle par exemple de Walikale, non seulement Walikale, il y a des provinces telles que les Maniema et la Tchopo. En tant qu'originaire de cette région, vous pensez que ça serait important aujourd'hui pour le gouvernement de mettre la pression pour arrêter l'élan de ces rebelles?
En effet, puisque c'est ce que nous venions de faire et nous venions de le démontrer en tant que la voix du Kivu pour la patrie, puisque nous avons la maîtrise de cette entité. Nous comprenons ce que les autres ne peuvent pas comprendre au pays. C'est-à-dire, quand la patrie est touchée de ce côté-là, nous sommes les premiers à ressentir les remords, la souffrance, puisqu'il s'agit de nos frères directs, tu vois, nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs et nos grandes sœurs. La question d'être partout où ils sont, je dois vous dire que depuis l'époque des Scram, des gens Scram, des Moulélé, l'époque de l'AFDEL, il y a eu toujours des guerres à répétition. Nous connaissons comment ça finit. Et c'est pourquoi nous avons un cahier des charges très important en tant que voix du Kivu pour la patrie, que nous allons soumettre aux autorités des institutions de la République pour qu'ils puissent comprendre des stratégies nécessaires de pouvoir chasser les agresseurs. C'est possible avec l'élan que prend nos enfants, les Wazalendo, et nous-mêmes derrière eux. En tout cas, c'est là... Père assuré que la paix est ressentie et voulue par tout le monde.
Le chef de l'État a parlé d'une action coordonnée pour récupérer les zones occupées aujourd'hui par la rébellion du M23FC, soutenue par les RDF. Est-ce que vous, en tant qu'originaire du Kivu, vous croyez encore à cette action coordonnée pour récupérer ces zones?
Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas croire à ce que le président, le garant de la nation, dit à sa population? Nous, d'abord, nous croyons que la volonté engagée par le président de la République, elle est là. Mais nous interpellons aussi nos frères congolais et des politiques qui font un pied dedans, un pied dehors et qui, par moments, les autres qui appuient l'ennemi et nos frères qui osent vouloir légitimer un combat qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que la position du président de la République rassure mille et une fois et nous, avec notre détermination et l'engagement de ne pas vendre un centimètre du sol congolais, ça va faire à ce que ces gens puissent trouver leur échec devant eux. Et ils le savent qu'ils ont déjà l'échec, puisque le peuple a déjà répondu non.
Monsieur Joncier, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
John Chibweru, membre du collectif Voix du Kivu pour la patrie, s'entretenait avec Ronilyn Timbonera. Merci d'avoir suivi notre journal. Billy Landry Betou a assuré la mise en onde. Élisée Tchoukoté à la coordination, Martin Sebujango à la supervision, Gisèle Cage à la présentation. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Vous pouvez également consulter notre site web www.radiocapi.net pour des articles détaillé. Nous vous souhaitons une agréable journée, espérons vous retrouver très bientôt sur la même fréquence.